France Internationale, 15h à Paris, 13h en temps universel.
RFI Midi.
Stéphane Genest.
Bienvenue, si vous nous rejoignez pour cette demi-heure consacrée à l'actualité d'Haïti et du continent américain. On évoquera notamment à la situation sécuritaire à Port-au-Prince avec Godson Pierre d'Alter Press. On sera aussi aux États-Unis à 2 semaines de l'élection présidentielle. On fait le point sur les programmes des candidats et Guillaume Nodin, notre envoyé spécial permanent à Washington, nous dira tout de la semaine politique qui vient de s'écouler. Et puis l'actualité des Outre-mer, avec à la une ce couvre-feu prolongé en Martinique, Odana Géali.
Oui, mesure maintenue jusqu'à lundi prochain par la préfecture, alors que les militants contre la vie chère s'organisent pour poursuivre le mouvement. Vous les entendrez tout à l'heure.
A tout à l'heure, Odana. On vous appelle dans 20 minutes.
RFI Midi.
Et d'abord le journal avec Karine Belisha. Et au Proche-Orient, l'armée israélienne appelle une fois de plus les habitants de la banlieue sud de Beyrouth à évacuer leur domicile ce mardi après-midi.
De nouveaux bombardements sont annoncés contre des installations du Hezbollah. Des frappes ont déjà visé Tir et Beyrouth ces dernières heures. L'hôpital Hariri, le plus grand établissement public du pays, a été visé, faisant au moins 13 morts et 60 blessés. Théo Renaudon, l'offensive israélienne ne connaît pas de pause.
L'aviation israélienne a lancé plusieurs raids dans des villages au sud et à l'est du Liban. Ces dernières heures, c'est près de Tir que les bombes pleuvent. 9 attaques en une heure, selon l'Orient le jour. Israël avait appelé à évacuer. Bombardement intense également à Beyrouth cette nuit. Tel Aviv promet avoir ciblé dépôts d'armes et centres de commandement du Hezbollah. Tout ça était sous terre, selon Israël, toujours ciblé par l'État hébreu, la base navale du Hezbollah, où étaient entreposés des bateaux militaires légers qui étaient destinés à affronter la marine israélienne, selon Tel Aviv. À part l'hôpital, le bilan de ces frappes à Beyrouth n'est pour le moment pas connu. Des sources parlent d'une dizaine de morts civiles. Le Hezbollah, lui, a repoussé plusieurs offensives à la frontière sud. Un soldat israélien est grièvement blessé, milice chiite qui revendique également 3 frappes de missiles sur plusieurs cibles militaires israéliennes, dont une en banlieue de Tel Aviv. Le dôme de fer semble avoir joué son rôle. Aucun blessé ni dégâts.
C'est dans ce contexte que le chef de la diplomatie américaine est arrivé au Proche-Orient. C'est le 11e voyage d'Anthony Blinken dans la région depuis un an. Après la mort du chef du Hamas, il espère arracher un cessez-le-feu à Gaza et la libération des otages israéliens. Après Israël, Anthony Blinken se rendra demain en Jordanie. L'objectif est clair pour Vladimir Poutine, faire contrepoids au G7. Le président russe réunit une 20aine de dirigeants étrangers de pays émergents à partir d'aujourd'hui pour le sommet des BRICS à Kazan. C'est sur les rives de la Volga, dans le centre du pays. Les grands conflits y seront évoqués, l'économie aussi. Le Kremlin souhaite créer un nouveau système de paiement international pour concurrencer SWIFT. Les banques russes ont pour la plupart été exclues du réseau mondial depuis l'invasion en Ukraine.
Et d'économie, on en parle aussi à Washington cette semaine, Karine.
Oui, les assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale se tiennent dans la capitale américaine. À cette occasion, le Fonds monétaire international publie ses prévisions annuelles pour l'économie mondiale. À l'instant, le FMI révise en baisse ses prévisions de croissance mondiale pour 2025 à 3,2% pour 2024. Dans un contexte de tensions géopolitiques majeures, l'institution s'inquiète de l'endettement de certains pays. Mais l'économiste en chef du FMI, Pierre-Olivier Gourinchat, salue le succès de la lutte mondiale contre l'inflation. On l'écoute.
C'est une très bonne nouvelle parce qu'on a une baisse de l'inflation sans avoir eu une récession mondiale. Une économie mondiale qui est restée assez robuste. On a des prévisions de croissance de l'ordre de 3,2% pour 2024 et 3,2% pour 2025. Il n'y a pas de récession mondiale. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle dans l'ensemble.
Et puis d'un point de vue budgétaire, il y a cette alerte générale lancée par le FMI sur l'endettement mondial qui devrait atteindre 100% du PIB à l'horizon 2030 et ça devrait même encore s'aggraver.
Alors, l'augmentation de la dette publique, on la voit à la fois dans les pays, les économies avancées, les pays riches, et on la voit aussi chez les pays émergents. Mais lorsqu'on regarde un petit peu plus près, en fait, elle est assez concentrée dans 2 pays. Les États-Unis d'un côté et la Chine de l'autre. Alors, ce ne sont pas les seuls 2 pays qui ont des augmentations de dette dans les 5-10 années à venir. En volume, ce sont ceux qui vont compter le plus. Donc, ce n'est pas une situation généralisée.
Pierre-Olivier Gourinchat, économiste en chef du FMI, c'est un entretien à retrouver en intégralité ce samedi dans Écho d'ici, Écho d'ailleurs, avec Bruno Faure.
C'est dans deux semaines, jour pour jour, aux États-Unis, l'élection présidentielle. Les Américains vont trancher.
Kamala Harris ou Donald Trump, la présidentielle se rapproche. Les candidats continuent d'enchaîner déplacements et déclarations. La candidate démocrate sera aujourd'hui sur NBC pour une nouvelle interview. Donald Trump, lui, participera à une table ronde avec des électeurs latinos depuis l'une de ses propriétés en Floride. Les sondages sont très serrés. Trump et Harris sont au coude à coude. Et si la victoire se jouait à la marge avec les petits candidats, le parcours de Jill Stein est particulièrement scruté. La candidate du Parti vert concourt dans 6 des 7 États clés, là où la présidentielle se joue. François-Damien Bourgery, les démocrates l'accusent de faire le jeu de Donald Trump.
That's why I vote for Stein. It's really a vote for Trump.
Depuis le 12 octobre, les électeurs de Pennsylvanie, du Michigan et du Wisconsin peuvent voir à la télévision un clip de campagne du Parti démocrate qui les met en garde contre le vote Jill Stein. La candidate du Parti vert ne pèse pourtant qu'1% des voix à l'échelle nationale. Mais dans une élection qui se jouera dans 7 états pivots et à seulement quelques milliers de voix près, rien n'est laissé au hasard, comme l'explique Vincent Michelot, professeur d'histoire politique des États-Unis à Sciences Po Lyon.
Les deux candidats, ils craignent un déplacement de 20 000 ou 30 000 voix. Donc les deux sont totalement focalisés sur ces micro-segments de l'électorat qui peuvent faire basculer l'élection dans un sens ou dans un autre.
Avec son discours farouchement opposé à la guerre menée par Israël à Gaza et au Liban, Jill Stein séduit les électeurs musulmans qui avaient voté pour Joe Biden il y a 4 ans et qui dénonce aujourd'hui le soutien inconditionnel apporté par Washington à l'État hébreu. Mais ce n'est pas le seul électorat susceptible de voter pour elle, explique Vincent Michelot.
C'est vers elle que sont susceptibles de se tourner des électeurs qui sont essentiellement des électeurs jeunes et plutôt ancrés très à gauche du côté démocrate.
De son côté, Donald Trump ne peut que savourer. Jill Stein, je l'aime beaucoup, déclarait-il lors d'un meeting à Philadelphie en juin dernier. Vous savez pourquoi ? Parce qu'elle leur prend 100% des voix.
On reste aux États-Unis et on foule ensemble les parquets de basket.
Oui, cette nuit, c'est le coup d'envoi de la saison de la NBA, la ligue la plus prestigieuse du monde. 30 équipes vont tenter de se qualifier pour les phases finales au printemps prochain. Le match d'ouverture opposera les Boston Celtics aux New York Knicks. Boston remet son titre en jeu. Victor Missistrano.
En remportant une 18e bague de champion NBA, les Celtics ont dépassé les Los Angeles Lakers en tête du palmarès. Titré cet été à Paris avec les États-Unis, Jason Tatum est l'un des 3 champions olympiques de cette équipe.
L'important, c'est d'abord d'être fier de ce que nous avons accompli la saison dernière. Ça a été une année extraordinaire. Nous avons formé une équipe incroyable et nous sommes entrés dans l'histoire. Cette année, nous n'avons pas le sentiment de devoir défendre notre titre, mais plutôt d'essayer d'en gagner un autre.
C'est cette culture de la gagne qui a fait de Boston le grand favori à sa propre succession, selon un autre champion olympique, Joel Embiid. Le natif de Yaoundé sait ce qui manque à son équipe, Philadelphie, pour atteindre enfin une finale de conférence.
Il ne s'agit pas nécessairement du type de joueur, mais plutôt de la cohérence collective, de jouer avec les mêmes gars pendant longtemps, quand chacun sait ce qu'il a à faire, où se placer, la culture.
Culture de la gagne, culture collective, le grand chantier des San Antonio Spurs de Victor Wembanyama, la principale attraction. Le Français, dont les 2m24 seront toujours plus au centre des regards pour sa deuxième saison. Wemby espère que ce sera celle de la confirmation.
15h09 à Paris. Voilà, c'est la fin de ce journal, Stéphane.
Merci beaucoup. C'est effectivement le journal de Karine Bellicha. 9h09 à Port-au-Prince.
RFI Midi, l'actualité d'Haïti et des Amériques.
À Port-au-Prince, où au moins 2 personnes ont été tuées après des attaques de gangs, 5000 personnes ont dû quitter leur domicile. La capitale haïtienne en ébullition ces dernières heures. En ligne avec nous, comme chaque mardi, Godson Pierre, directeur de l'agence Alter Press. Bonjour Godson.
Bonjour Stéphane.
Et si la violence des gangs est quotidienne à Port-au-Prince, la situation s'est fortement dégradée ces 2 derniers jours, Godson, dans plusieurs secteurs de la zone métropolitaine.
Et même les riverains de plusieurs quartiers où il y a encore un semblant de normalité expriment leur crainte d'éventuelles attaques de gangs. Les activités ont été perturbées durant la journée du 21 octobre dans plusieurs endroits de la capitale et ses environs. La tension a monté, des tirs nourris ont résonné, des barrages et des barricades enflammées ont été constatées. Un des points les plus chauds est Solino, au centre de la capitale, sous les attaques répétées de la coalition des gangs armés vivent ensemble, eh bien la police était hier soir encore aux prises avec ces bandits.
Une situation qui pousse les habitants des quartiers à fuir.
Au total, 4 200 personnes ont été déplacées suite aux attaques des gangs armés survenues depuis le 17 octobre à Port-au-Prince, particulièrement dans le quartier de Solino, dont nous parlions, au Bas d'Elma, ainsi que dans la commune de Tabar, au nord de la capitale, précisément dans le quartier de Tabar 27, selon l'Organisation internationale pour les migrations.
Et Godson, la situation est aussi très tendue en province, notamment dans le département de l'Artibonite.
Il est rapporté d'ailleurs une attaque de bandits contre une école de la commune de Lester lundi dans l'Artibonite au nord du pays. Un parent d'élève a été tué tandis que plusieurs écoliers ont été blessés. A rappelé que début octobre, une attaque d'un gang contre la localité de Ponsondé avait déjà fait au moins 109 morts et plus d'une quarantaine de blessés.
Et face à cela, Godson Pierre, Alterpresse, nous apprend que le gouvernement a décidé de redéployer des unités d'élite là où les combats les plus rudes avec les gangs ont lieu.
C'est le chef du gouvernement de transition, Gary Conny, qui en a fait l'annonce. Il informe de sa décision de rappeler dans l'immédiat ces centaines de policiers et soldats des unités d'élite actuellement affectés à la protection de personnalités importantes. Pour lui, chaque membre de ces unités doit désormais contribuer directement à la défense du territoire haïtien.
Et parallèlement, le gouvernement, lui, s'engage à améliorer les conditions sociales des citoyens avec toute une série de mesures. Elles ont été annoncées.
Oui, le ministère des Affaires sociales et du Travail qui s'engage désormais à améliorer l'accès et la qualité des services publics de protection sociale de l'État à la population et œuvrer pour assurer une couverture sociale universelle, un immense défi dans un pays où seulement 11% des salariés ont accès à la sécurité sociale.
Godson Pierre, le patron d'Alterpresse en direct de Port-au-Prince. Merci beaucoup Godson, on vous retrouve à la semaine prochaine. On continue de parler de sécurité en Haïti puisque les deux chefs de l'exécutif ont visité le quartier général des forces armées du pays, Christophe Paget.
Oui, mais séparément, à 24 heures d'intervalle. Après la guerre épistolaire, le conseil présidentiel de transition et le premier ministre font un grand concours de visites et de réunions pour la galerie, titre Le Nouvelliste, selon qui ils affichent au grand jour la désarticulation de la transition. Alors que, parallèlement à ces visites, les groupes criminels, on l'a entendu, continuent de sanctionner la population. Ce n'est pas le moment des querelles politiques, insistaient Brahan et Nichols, l'assistant secrétaire d'État américain pour les affaires de l'hémisphère occidental. D'autant que, souligne Franz Duvad dans son éditorial, si en février, le Premier ministre Ariel Henry était en vadrouille quand les gangs ont déferlé sur Port-au-Prince, cette fois, les chefs sont au pays. Ils s'entre-déchirent et font enfler leur album photo.
Vous restez avec nous, Christophe Paget. On vous retrouve dans un instant, 15h13 ici à Paris, 9h13 à Washington.
USA 2024.
When we fight, we win.
We will make America great again.
On part donc aux États-Unis et comme chaque mardi, on fait le point sur la campagne présidentielle américaine, 2 semaines jour pour jour avant le vote. Ce sera le 5 novembre. Notre envoyé spécial permanent à Washington est avec nous. Bonjour Guillaume Nodin.
Bonjour Stéphane, bonjour à toutes et à tous.
Et on commence par une question. $1 million, Guillaume, ce que fait Elon Musk dans la campagne, est-ce que c'est légal ?
C'est la question que tout le monde se pose. Alors, petit rappel, le comité d'action politique que le milliardaire a créé pour soutenir financièrement et en termes d'organisation la candidature de Donald Trump a lancé une pétition en faveur officiellement de la défense de la Constitution et du droit à porter des armes. Et cela n'est valable que dans chacun des 7 États clés. Chaque électeur inscrit signataire recevant $100 plus $47. Pourquoi 47 ? Parce qu'on élit le 47e président des États-Unis. Plus $47 par un autre électeur inscrit qu'il convainc de signer la pétition. Et ce week-end, Elon Musk a annoncé que chaque jour jusqu'à l'élection, un des inscrits à sa pétition recevrait par tirage au sort $1 million. Et le premier néo-millionnaire a été désigné hier, jour de la date limite d'inscription dans les États-clés de la Pennsylvanie et du Michigan. Et il a reçu son chèque des mains d'Elon Musk en personne.
Le vainqueur de ce soir est John Dreher. En fait, John n'avait aucune idée qu'il allait gagner. Bienvenue. La seule chose qu'on demande pour ce million de dollars, c'est que vous parliez de cette pétition. C'est tout, vraiment.
Et la grande question, c'est est-ce que c'est bien légal tout ça, Stéphane ? Parce que la loi interdit l'achat de vote et payer pour recruter des électeurs, eh bien, cela ressemble drôlement à de l'achat de vote. Les experts légaux sont divisés car officiellement, Elon Musk demande seulement de signer sa pétition.
Et oui, Guillaume, les finances de la campagne, justement, on continue d'en parler avec vous, puisqu'après le million, on passe au milliard.
Oui, selon la Commission électorale fédérale, au mois de septembre, la campagne Harris a levé 3 fois plus d'argent que la campagne Trump. Sur les 3 derniers mois, le total pour les démocrates s'élève à 1 milliard de dollars. 1 milliard et demi au total depuis qu'elle est entrée en campagne. Et évidemment, ils dépensent davantage que les républicains. C'est de l'argent qui part notamment en publicité dans les États-clés.
Et donc, Guillaume Dodin, cet argent, il vient d'où ?
Eh bien, des contributeurs plus ou moins gros. Il y a Elon Musk et puis donc des milliardaires dans chaque camp. Mais il y a aussi de petits donateurs qui ils sont très sollicités. Quand vous ouvrez un célèbre site de vidéo en ligne, il est difficile d'échapper à ce genre de messages des candidats. Par exemple, ici, Donald Trump.
Je vais vous dire ce que 5 dollars signifie pour ma campagne. 5 dollars nous permettent de contacter des milliers d'électeurs dans des États-clés très importants. 5 dollars permettent de diffuser des pubs comme celle-ci jusqu'au jour de l'élection, jusqu'au bout. Si assez de gens donnent 5 dollars, cela nous permettra d'aller jusqu'à la victoire. Donc seulement si vous pouvez vous le permettre, est-ce que vous pouvez donner aujourd'hui ? C'est tellement important parce que nous devons gagner, nous devons rendre sa grandeur à l'Amérique.
Et puis il y a les messages textes sur le téléphone portable. Donald Trump a mon numéro, Stéphane. Donc par exemple, j'en reçois 7 par jour pour me dire que je serai invité à Mar-a-Lago si je donne à la campagne Trump ou pour me demander d'acheter la dernière casquette MAGA noire. Et je vous avoue que 7 par jour, c'est un petit peu fatigant d'entendre ting comme ça.
Oui. Et 7 fois par jour. Et Kamala Harris, elle, est-ce qu'elle vous harcèle aussi, en tout cas à ce point ?
Eh ben bien sûr que oui. D'abord, elle aussi, elle apparaît sur le même site de vidéo en ligne avant de pouvoir accéder au contenu que vous recherchez. Écoutez.
Je ne veux pas qu'on se réveille le lendemain de l'élection en se disant qu'on aurait dû faire plus. Un don, à ce stade de la campagne, compte vraiment. Chaque dollar compte pour gagner cette élection. Dans des années, nos enfants et nos petits-enfants nous demanderont où nous étions quand les enjeux étaient si élevés. Disons-leur à quel point nous avons travaillé ensemble et que nous avons réussi. Qu'ils soient petits ou grands, chaque don propulsera notre campagne vers la victoire en novembre. Merci et s'il vous plaît, prenez soin de vous.
Alors Kamala Harris ne m'envoie pas 7 SMS par jour. En revanche, sa campagne a mon adresse de courrier électronique. Et croyez bien, Stéphane, que je le regrette, car c'est une avalanche de courriels pour me demander de donner. Là, il est un peu plus de 9h à Washington et j'ai déjà reçu au moins 3 courriels me demandant des contributions ce matin. Et bien souvent, ça joue sur la peur en disant que les sondages ne sont pas bons et qu'il est urgent, vraiment urgent de donner.
Eh bien, on vous laisse faire le tri dans vos courriels. Merci beaucoup, c'était le journal de campagne avec Guillaume Nodin en direct de Washington pour RFI. Je reviens vers vous, Christophe Paget, puisqu'aux États-Unis, la presse s'intéresse à Donald Trump et à sa manière de s'adresser à l'électorat masculin.
Oui, Donald Trump qui est en tête pour ce qui est du vote masculin et qui insiste avec une posture de macho. Titre USA Today, qui comme beaucoup d'autres quotidiens, revient sur les propos qu'a tenus le candidat ce week-end. Il y a vraiment quelque chose qui se passe avec Donald Trump, écrit un éditorialiste du New York Times. Il y a un an, il n'aurait jamais commencé un meeting par 12 minutes de remarques décousues sur le golfeur décédé Arnold Palmer, un monologue qu'il a conclu par une réflexion sur la taille du pénis de M. Palmer. Et l'idée de confier les codes nucléaires à un homme qui crache ce genre de vulgarité inquiète l'éditorialiste. Pendant ce meeting, l'ancien président a aussi traité Kamala Harris de vice-présidente de merde. Est-ce que c'est vraiment malin, particulièrement la vulgarité, s'interroge dans The Hill une conseillère républicaine. Cela ne va certainement pas attirer les électeurs qu'il faut encore persuader, mais nous sommes aujourd'hui à un moment où les deux camps veulent surtout mobiliser leur base, et celle de Trump est mobilisée. Le fait est que, à de nombreuses reprises, écrit un reporter de Politico, les électeurs nous ont dit que c'est ce qu'ils aimaient à propos de Trump. Ils disent ce qu'ils pensent. Ce genre de discours est largement accepté maintenant, et particulièrement pour Trump, à en croire ses électeurs. Pour résumer, écrit The Hill, Donald Trump penche dans la dernière ligne droite de la campagne vers un mélange de populisme, d'agression et de grossièreté pure et simple, et cela pourrait marcher.
Et on continue de s'intéresser au programme des deux candidats Donald Trump et Kamala Harris. Focus aujourd'hui sur les thèmes que sont l'environnement et le climat. où là aussi les deux candidats ont des positions très opposées. On en parle avec le chef du service environnement climat de RFI, Simon Rosé, en direct avec nous. Alors Simon, on commence avec Donald Trump, le candidat républicain. Alors que dit-il sur les sujets environnementaux ?
Eh bien, pas grand-chose, hein, Stéphane, si ce n'est pour nier le changement climatique et en relativiser ses conséquences. On n'a donc pas vraiment de mesures précises à analyser, si ce n'est une intention générale de détricotage des politiques et réglementations existantes. Ce n'est pas très surprenant, hein, durant son premier mandat. En plus du retrait des États-Unis de l'accord de Paris sur le climat, Donald Trump avait déjà tenté d'en supprimer une grosse centaine, mais cela avait été fait dans la précipitation et la grande majorité des actions qu'il avait menées en ce sens avaient été annulées par la justice. S'il devait retrouver le bureau ovale, ses soutiens et lui apparaissent bien plus préparés cette fois pour mener ce travail de sape à bien.
S'y ajoute un soutien marqué au secteur des hydrocarbures.
Drill, baby, drill. C'est le credo de Donald Trump. En clair, forêt, 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 forêt. Un événement de campagne en dit long. Le candidat républicain recevait des patrons du secteur. Il leur a fait une offre. $1 milliard pour financer sa campagne électorale contre un engagement à suspendre toutes les mesures prises par l'administration Biden restreignant leur activité. On peut également s'appuyer sur le projet 2025, un document, ce qui ressemble le plus à un programme, écrit par un think tank très conservateur dont sont membres nombre de ses soutiens. On y retrouve la suppression des normes et réglementations existantes que j'évoquais, mais également un travail de sape qui va plus loin, une véritable offensive politique à l'encontre des agences gouvernementales avec la nomination de personnalités climato-sceptiques en leur sein et une sévère restriction de leur périmètre d'action.
Et de l'autre côté, Simon Rosé, on imagine donc que la démocrate Kamala Harris est beaucoup plus engagée ?
Eh bien, pas vraiment. Hein. Elle est très peu prolixe sur le sujet qui est encore très clivant aux États-Unis. Alors certes, quand elle est questionnée, elle est claire, hein, le réchauffement climatique existe, il est d'origine humaine, c'est le défi de ce siècle, mais elle ne s'étend pas plus. Son programme est dans la poursuite de ce qui a été fait avec Joe Biden, avec tous ses paradoxes, notamment sur l'IRA, que Kamala Harris entend poursuivre, un plan massif d'investissement dans la transition énergétique du pays. Pays qui, dans le même temps, est redevenu le premier producteur mondial de pétrole grâce au gaz de schiste. Et sur ce sujet, Kamala Harris a évolué. Elle y était opposée il y a quelques années encore. Ce n'est plus le cas aujourd'hui.
Et au-delà des programmes, précisément, Simon Rosé, le résultat de cette élection aura, on l'imagine également, des conséquences mondiales dans la lutte contre le réchauffement climatique.
Alors, il y en a déjà. La COP29 sur le climat qui débutera une semaine après l'élection américaine. Mais en attendant, les négociations préparatoires, elles patinent. Les États-Unis peuvent en effet prendre deux chemins radicalement opposés. Beaucoup de pays attendent de voir ce qui va se passer avant d'arrêter leur propre position. Et enfin, cette élection pourrait être celle qui décidera tout simplement du sort de l'accord de Paris. Les confrères du média spécialisé Carbon Brief ont comparé le programme des deux candidats et ce qu'ils impliquent en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Et la conclusion est très claire, une élection de Donald Trump et les émissions associées rendraient impossible l'objectif de limiter le réchauffement à plus 1,5°C.
Décryptage signé Simon Rosé, chef du service environnement de RFI.
RFI Midi.
Stéphane Genest.
Et hier en Colombie, c'était l'ouverture de la COP16 sur la biodiversité, la plus grande jamais organisée avec 23 000 inscrits. Je vous propose d'écouter un extrait du discours d'ouverture pour le moins offensif du président Gustavo Petro.
Ceux qui nient le fait que l'extinction de la biodiversité et de la vie a déjà commencé sont des imbéciles. Arrêter l'accumulation du capital qui porte les spectres de la mort nous oblige à faire une révolution mondiale de l'humanité. Le drapeau de cette révolution s'appelle aujourd'hui vie.
Et Christophe Paget, ce qui a le plus attiré l'attention de la presse, c'est un autre discours tenu le même jour par Gustavo Petro.
Oui, lors de l'inauguration de la zone verte, un espace public pour les ONG et les visiteurs à Cali, le président a lancé de dures critiques contre les COP, écrit El Universal. Il a demandé au gouvernement présent au sommet d'avancer sur des actes concrets, estimant que, après les diverses COP qui ont déjà eu lieu pour parler du climat et agir, eh bien les gens ont continué à parler. Un échec qui, selon lui, dure depuis 30 ans. La faute aux pays les plus puissants qui, a souligné le président colombien, n'ont pas la volonté d'agir, rapporte Semana. En tout cas, la Colombie a, elle, présenté hier son propre plan d'action pour la biodiversité. Objectif, rapporte El Tiempo, restaurer 5 millions d'hectares et créer plus de 522 000 emplois en rapport avec la biodiversité.
Et puis au Pérou, Christophe Paget, l'ancien président Alejandro Toledo, condamné à 20 ans et 6 mois de prison.
Alejandro Toledo, 78 ans, président de 2001 à 2006, a été condamné pour collusion et blanchiment d'argent lié au pot de vin reçu de l'entreprise brésilienne de BTP Odebrecht, rapporte El Peruano, un pot de vin de $34 millions pour la construction d'une autoroute. C'est le premier président de la région, note Le Quotidien, à être condamné dans cette affaire. El Comercio rappelle ses premiers jours de présidence. Il était arrivé au palais porté par l'espoir de millions de Péruviens comme l'alternative démocratique à l'autoritarisme et la corruption de Fujimori. Mais une fois installé, il a abandonné les vraies tâches du gouvernement pour se consacrer à la corruption et à l'organisation de pots de vin pour se remplir les poches.
Toute la presse américaine avec Christophe Paget, presque vous retrouvez sur notre site internet RFI.fr, rubrique Journal d'Haïti et des Amériques. Oh yeah, mama.
RFI Midi.
Le journal des Outre-mer avec nos confrères de la Première. En Martinique, la nuit a été plutôt calme, mais le mouvement contre la vie chère se poursuit au Danaji Ali.
Oui, quelques barrages érigés cette nuit du côté de Fort-de-France, notamment malgré l'annonce de la prolongation du couvre-feu jusqu'à lundi prochain. Couvre-feu qui s'applique désormais sur l'ensemble de la Martinique entre minuit et 5 heures du matin. Et du côté de la mobilisation contre la vie chère, la colère des consommateurs ne redescend pas. Le RPRAC, association à l'origine de la mobilisation, on appelle désormais à l'union avec les organisations syndicales. Aude Goussard, la secrétaire du RPRAC, avec nos confrères de Martinique la Première.
Peut-être que les syndicats n'avaient pas compris pourquoi nous ne voulions pas de bannière. Peut-être parce qu'ils n'avaient pas remarqué que le RPRAC n'avait pas la sienne non plus. Mais en tout cas, aujourd'hui, nous nous accordons pour nous dire que les égos sont de côté. Les crispations dues à certaines déclarations qui ont mal été comprises sont mises aussi de côté. Parce qu'aujourd'hui, la question de la vie chère et la manière dont a été traitée la vie chère et par l'État et par la CTM et par ce protocole dont nous n'arrivons pas à donner de nom, il est vraiment question que nous soyons tous unis une bonne fois pour toutes.
Aude Goussard, la secrétaire du RPRAC. En Guadeloupe, c'est un déménagement d'envergure qui se prépare enfin pour le personnel du CHU. Le protocole de transfert de l'hôpital vers le site de Belle-Plaine aux Abîmes a été signé la semaine dernière. Transfert vers ce site donc flambant neuf, présenté comme un bijou technologique et qui viendra remplacer l'ancien CHU vétuste, victime d'un incendie en 2017. Coût des travaux de ce tout nouvel hôpital, 580 millions d'euros. Les précisions de Christelle Martial.
Seule une visite virtuelle est possible pour l'instant. Visite qui donne à voir un CHU moderne à la pointe de la technologie. Un hôpital éclaté sur 19 hectares qui combine un plateau technique impressionnant et des services administratifs, des unités de médecine et de chirurgie. Le tout dans des bâtiments de taille raisonnable pensés dans une démarche de certification haute qualité environnementale. Des isolateurs sismiques posés en nombre font de ces nouveaux locaux une structure capable de résister aux fortes secousses, mais aussi aux épisodes cycloniques. Des bâtiments sécurisés pouvant faire face aux aléas climatiques et sismiques, mais répondant également aux besoins des patients. L'installation d'équipements lourds tels que des IRM, des scanners, des accélérateurs de particules est en cours et devra permettre à ce CHU monocyte de traiter un large panel de pathologies. Si 2025 marquera clairement la fin du chantier du CHU de Belle-Plaine aux Abîmes, aucune date de déménagement effectif n'a été pour l'heure communiquée par la direction.
Puis les examens par la justice du non-lieu dans l'affaire du chlordécone une nouvelle fois repoussé. Le chlordécone, ce pesticide hautement toxique utilisé dans les bananeraies antillaises jusqu'en 1993. Les avocats des parties civiles avaient déposé deux questions prioritaires de constitutionnalité sur la responsabilité de l'État et l'empoisonnement. Elles ont été examinées ce matin par la Cour d'appel de Paris. Décision mise en délibéré au 13 novembre prochain, Stéphane.
Merci beaucoup Oda Naji Ali. Tout de suite de la musique dans le journal d'Haïti et des Amériques, c'est Nous pas fous de Maron Amoni avec Harry Malti.
Fait l'année, pépé pour nous souffrir, mais nous toujours fiers.
pas fou, Marwan Amaori avec Harry Malti sur RFI. C'est la fin d'RFI Midi. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain à partir de 11h, temps universel. Tout de suite, Pascal Paradou, de vive voix.